Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu.
Le Dahu à flanc de culture. Les paratonnerres est la première commande d'écriture de la compagnie Jabberwock à son auteur associé, Marc-Antoine Cyr, en résidence à Beyrouth. En novembre 2016, à la création de la pièce, le Dahu se glisse dans la salle du CDN de Tours, le Théâtre Olympia. Rencontre avec Didier Giroldon, metteur en scène, Camille Valla, scénographe, et Magali Charrier, création vidéo.
Les paratonnerres, ça se passe au Liban.
Camille Valla.
C'est une pièce de guerre, une pièce qui raconte une histoire de famille aussi. Et moi, j'avais pas envie de faire quelque chose de pittoresque, une sorte d'imagerie de Beyrouth. On a essayé de réfléchir à qu'est-ce qui pouvait accueillir ces personnages un peu étranges et ce texte de Marc-Antoine Cyr, tout en aussi donnant un espace possible pour la vidéo, parce que Didier travaille beaucoup avec la vidéo, et de laisser de la place à l'imaginaire. Il se trouve que le spectacle, ça commence par un prologue où Solène, un des personnages, raconte quel est son environnement, Beyrouth, la mer, la corniche, et que, en fait, cette histoire va se passer dans une maison un peu encaissée, où on entend autour des bombardements possibles, ou des éclats de fête, ou des orages. Donc moi, j'avais envie de travailler un peu là-dessus, sur l'idée de quelque chose d'un peu encaissé. J'aimais bien l'idée que les pieds des personnages soient coupés, enfin qu'on ait l'impression qu'ils soient dans une sorte de cuvette un peu. Et donc on a décidé de faire des murs un peu surdimensionnés où eux ils paraissent plus petits et avec un élément devant qui fait à la fois une corniche et un élément qui permet de les couper, de les mettre à un niveau de sol un peu étrange à l'intérieur de quelque chose. Il y a une entrée possible et plusieurs autres entrées qu'on va découvrir au fur et à mesure du spectacle.
Donc c'est ça fait un peu l'impression d'une boîte en fait quand on est face à la scène, l'impression qu'ils sont en boîte.
Ouais. C'est quelque chose un peu comme ça, mais avec des perspectives possibles. Tu veux qu'on monte ?
Oui, on va s'approcher quand même pour voir. Donc quand on arrive là sur le devant de la scène, il y a ce premier élément, le bord du cadre ou le noir. Pourquoi noir ?
Quand on a réfléchi aussi avec l'éclairagiste, on se disait que ça serait bien de vraiment les cadrer. Et souvent au théâtre, on le fait avec des pendrillons. Mais moi, j'avais envie que ça appartienne aussi au décor. Et donc on a choisi de faire un mur complètement noir qui permette de les cadrer sans que ça soit de la même nature que l'autre partie du décor. Et moi j'avais envie que ça soit comme une sorte de pliage. Enfin quand tu parlais de boîte, que le sol, les murs et la façade soient comme une sorte de chose un peu pop-up. Et qu'après, il y a des volumes qui se détachent de ça. Donc cette corniche qui est en volume par rapport au sol noir, elle se décroche un peu. Il y a un petit établi, quelques éléments.
Là, c'est quoi toutes ces choses qui sont posées ? Des photos,
des photos, des cartes, des dessins. C'est un peu l'imagerie de Beyrouth qui est donnée pendant le prologue et qui va réapparaître au fur et à mesure du spectacle.
Mais là, en fait, il y a des journaux, il y a plein de choses là.
Il y a des journaux, il y a des cartes postales, il y a des photos de famille, des dessins, des revues, et voilà. Et c'est filmé.
Et c'est filmé, donc ça veut dire que c'est projeté quelque part pour le public.
Mais c'est où ? C'est Solène, donc le personnage qui est la fille de la famille, qui en gros collecte. Et collectionne toute cette imagerie et puis des morceaux de sa famille et on a pris le parti qu'elle les filmait pour les garder en mémoire.
Mais en plus tu es danseur aussi je crois, enfin du moins tu as fait de la danse, et est-ce que ce rapport là à l'espace et à la musique, est-ce que ça t'aide dans ce travail de mise en scène pour l'opéra ou dans un travail de mise en scène pour le théâtre ?
Alors, oui, ça fait partie de ma formation, la danse, le rapport au corps, à l'espace.
Didier Giroldon.
Maintenant, je ne danse plus, mais j'ai beaucoup dansé jusqu'à presque... Je me suis arrêté il y a une dizaine d'années, après un accident que j'ai eu, donc j'ai lâché un peu... Ce pan-là, mais en tout cas ça m'aide dans le rapport au théâtre, dans le rapport à l'espace et au corps, c'est-à-dire que j'aime beaucoup travailler rythmiquement avec les acteurs, Je leur demande de styliser les corps, puisqu'on n'est pas dans un... là, pour les paratonnerres, mais un peu comme dans tous les spectacles que je fais, on n'est pas dans un décor réaliste, on n'est pas dans un travail avec des accessoires. Les choses sont assez décalées, parce que j'aime que ce qui prime, c'est le rapport au texte, au rythme, et puis à l'espace. Ce qui permet aussi de travailler un peu différemment avec tous les artistes et tous les techniciens avec qui je travaille. La lumière, le son, la vidéo, tout ça prend une place. Et forcément, les acteurs doivent s'ajuster, jouer un petit peu différemment avec tous ces éléments extérieurs, ces nouveaux partenaires. Et à l'opéra, on va dire que dans le tandem qu'on fait avec Constance Larieux, elle qui est musicienne et comédienne, metteuse en scène, va travailler en lien plus direct avec le chef d'orchestre. On travaille tous les deux en amont pour tisser la mise en scène à partir des partitions. C'est-à-dire que c'est important qu'on puisse lire la musique pour avoir un dialogue direct avec le chef, avec les chanteurs, en se basant véritablement sur la partition, sur ce qui est écrit, ce qui est même assez rare à l'opéra, puisque bien souvent les metteurs en scène, il y a beaucoup de metteurs en scène de théâtre qui vont à l'opéra mais qui ne lisent pas la musique. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous, c'est d'être dans ce rapport direct là. Et Constance va vraiment travailler avec les chanteurs, musicalement, rythmiquement. Et puis moi, je vais apporter aussi quelque chose de plus en rapport avec le corps, avec l'espace. Et puis, sur le travail avec le cœur, qui sont, à chaque fois, les cœurs, c'est 10, 15, 20, 30 personnes. Et il faut arriver à les mettre dans l'espace, à les faire jouer et à ce que tout soit harmonieux et dessiné. Donc, on va dire que tous les deux, c'est ça qui fait la spécificité de notre duo.
Mais c'est de la traduction aussi, quelque part. Or, il me semble que tu as traduit aussi des pièces de l'anglais vers le français.
Oui, 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 ça fait partie de mon histoire. Avant de faire du théâtre, j'ai une passion pour les langues, et l'anglais, c'est ma langue, c'est ma deuxième langue maternelle, on va dire. Et puis, j'ai aussi fait des études d'anglais, donc assez naturellement, ayant étudié aussi le théâtre en Angleterre, et travaillant beaucoup en langue anglaise, j'ai été amené à traduire plusieurs pièces, mais ça, on va dire que je le fais rarement, ça m'arrive, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir travailler avec des gens du monde entier. Donc l'anglais me permet d'aller travailler un peu partout, et après, c'est quand même plus simple. Moi, je crois qu'avec la langue permet de comprendre des états du monde, des manières de penser. Moi, c'est ça qui me passionne. Je travaille énormément sur l'empathie, sur essayer de comprendre l'autre, les autres, l'autre. Du coup, apprendre la langue, j'ai beaucoup travaillé en Italie, je parlais pas italien, il a fallu apprendre la langue, et ça m'a beaucoup appris aussi sur les manières de bosser, sur les personnalités, sur les personnes que j'avais en face de moi. Ça, c'est assez riche. Donc ouais, les langues, c'est un truc qui me passionne aussi.
Mais est-ce que tu considères que le théâtre ou la danse, au même titre que l'anglais ou l'italien, c'est des langues ? Est-ce que pour toi, c'est aussi des langages et une façon de dire, de comprendre ou d'explorer le monde ? Est-ce que c'est des langues aussi ?
Ouais, d'une certaine manière. C'est des manières d'arriver à exprimer des choses différentes. Donc, je dirais plus, c'est des techniques, des répertoires sensibles. Il s'agit de... Après, quand je fais des spectacles, j'essaye de marier toutes ces disciplines et puis de voir ce qui permet de trouver l'essentiel dans chaque... ça fait partie, c'est des ingrédients qui vont tous réagir ensemble, mais j'essaye pas d'appliquer des techniques standards à chaque création. Du coup, ça donne aussi à chacune de ces créations ses spécificités, et je me pose pas la question forcément de à quoi ça va ressembler tout de suite. J'aime bien me dire qu'on a toutes ces cordes là qu'on peut utiliser, et puis au fur et à mesure, on sélectionne celles qui sont les plus judicieuses.
Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire ?
Alors, je suis en train de filmer des images pour essayer en projection.
Magali Charrier.
Là, on va voir les acteurs qui vont venir à 14h30 et on va essayer des projections avec eux sur scène. Et je fais des tests de coloris, de forme pour une scène pour laquelle on a déjà quelque chose, mais qui ne fonctionne pas encore complètement.
ça.
C'est une recherche permanente, après, en fonction des acteurs. Enfin,
ouais.
Est-ce qu'il faut qu'ils se retrouvent aussi dans les images que tu proposes ?
Oui. Alors eux, à l'intérieur des images, des fois, c'est difficile de se rendre compte de ce qui se passe parce qu'ils sont vraiment dedans. Mmh. Mais souvent, ça peut leur donner des indications de mood, enfin, d'une certaine atmosphère, quoi. Ouais, c'est beaucoup des rendus qui fonctionnent quand même de loin, enfin, du point de vue du spectateur, qui crée des atmosphères, qui crée des scènes, des tableaux, quoi.
Donc, qu'est-ce que ça prend en charge, en fait, dans l'écriture de la pièce? Quelle partie ça prend en charge, les photos? Est-ce que ça s'adresse juste au spectateur, ou alors est-ce que ça décharge, entre guillemets, les acteurs de quelque chose, comme un costume, par exemple?
Moi, ce qui me semble, c'est que c'est un autre outil de la mise en scène. Ça met quelque chose en scène et ça donne un contexte à l'histoire. Ça permet de créer des choses qui ne sont pas dans le texte, d'amener des choses qui ne sont pas dans le texte, d'explorer des choses qui sont pas écrites. Ouais. Mmh. Comme là, la personnage principale de Solène, elle filme, elle a une sorte d'obsession un peu pour documenter sa vie. Et donc il y a pas mal de jeux elle filme sur scène, on voit ce qu'elle filme, et puis souvent ce qu'elle filme, ça donne un paysage ou ça donne des choses dans lesquelles les personnages viennent s'inscrire.
Et alors, comment on crée un ensemble d'images? Enfin, assorti, c'est peut-être pas le mot, mais enfin, qui se répondent entre elles, qui parlent entre elles. Comment on arrive à ce résultat-là?
Moi, je travaille beaucoup à l'instinct, donc c'est pas forcément quelque chose qui passe par l'intellect. Je suis vraiment allée chercher déjà des images de Beyrouth, donc qui parlaient d'un endroit très spécifique, d'une ville auquel le texte réfère. Au tout début, et donc moi je suis allée vraiment chercher quelque chose qui évoquait un endroit. Alors c'était des choses, des photos d'il y a longtemps, des photos récentes, avec l'idée que ce personnage de Solène cherche à se pose des questions sur d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle fait ici. Surtout ces images, en fait, ça évoque son intériorité à elle et aussi des questions qu'elle se pose.
Et alors, tu es vidéaste, on peut dire ça?
Ouais, je suis vidéaste. Je n'ai pas travaillé beaucoup pour le théâtre, mais c'est vrai, quand je le fais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'on est tout de suite en équipe et qu'il y a une sorte de synergie, de quelque chose qui se crée entre tout le monde qui est assez exceptionnel.
Et sinon, tu travailles sur quel autre type de projet?
Sinon, je fais des films, je fais de l'animation. Donc, c'est vraiment à la commande, quoi. Je travaille je fais des films promotionnels sur Internet, pas mal. C'est comme ça que je gagne ma vie. Je travaille à Londres, donc beaucoup de mes clients sont à Londres. Et je travaille aussi dans la danse. Donc, je documente des spectacles vivants, spectacles de danse et des projets qui ont à voir avec la danse.
Voilà, donc là, sur un projet comme celui-là, tu as peut-être plus de marge de création?
Oui, c'est exactement ça. Et puis quand je travaille toute seule, quand je travaille sur d'autres projets, souvent c'est moi qui crée les choses. Alors que là, je me retrouve vraiment en équipe avec plein d'autres cerveaux qui travaillent en même temps que le mien. Et du coup, ça crée d'autres. Ça se répond, quoi. Ça se nourrit.
Alors du coup, je crois que c'est pas ta première collaboration avec Marc-Antoine Cyr. Je crois que vous avez commencé à travailler ensemble peut-être en 2014, non? La première pièce que vous avez fait ici, c'était ça?
Oui, alors la première pièce qu'on a créée, on l'a jouée au Théâtre Olympia, mais on ne l'a pas créée au Théâtre Olympia, donc c'était Fratrie. Mais avant ça, on a fait deux autres projets ensemble. Quand j'ai pris la direction du Théâtre Universitaire de Tours, donc en 2011, on a travaillé ensemble en 2011 et en 2012 sur certains de ces textes avec les étudiants. Donc c'était vraiment deux projets avec les étudiants, ensuite Fratrie, Les Paratonnerres, et puis là on est sur un autre projet pour 2018, un spectacle qu'on va créer à Montréal.
Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ces textes?
Ce qui m'intéresse dans son écriture, c'est une vraie sensibilité, une vraie pudeur, et c'est pas de la sensiblerie, c'est-à-dire que je trouve qu'il arrive à épurer les choses suffisamment pour que on puisse on puisse entendre ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire que il a une écriture très stylisée, très rythmique, très, très belle, et j'aime les thèmes autour desquels il gravite, et qui sont des thèmes que je partage, le rapport à l'altérité, l'identité, et puis il tisse ça d'une manière en même temps humoristique et assez cruelle, et j'aime bien cette tension entre les choses dont il parle et puis la légèreté avec laquelle il peut parler de tous ces sujets-là. En tout cas, pour Les Paratonnerres, pour Fratrie, c'est vraiment des pièces qui m'ont beaucoup remué. Et avec cette grande pudeur, je crois aussi que ça permet à pas mal de gens de s'identifier sans violence. Enfin, c'est une écriture assez poignante pour moi.
Donc là, il y a une fenêtre sur le grand mur blanc.
Pour avoir aussi l'occasion de se dire qu'on pouvait regarder à l'extérieur. Mais on ne sait jamais ce qu'on peut y voir. La vidéo, parfois, intègre l'extérieur à l'intérieur, mais ça, quand même, il faut voir le spectacle. Et c'est pareil, la dimension de cette fenêtre, elle permet donc que les personnages puissent voir ce qui se passe à l'extérieur. Et en même temps, je l'ai un peu pensé comme un soupirail. C'est un peu trop bas dans ces murs pour que ça soit vraiment une fenêtre. C'est une chose un peu allongée, bizarre.
C'est ça, on a une impression, en fait, là. Donc autant ça crée une unité sur les formes et les couleurs, mais... C'est les dimensions qui sont étranges.
C'est ça.
C'est ça.
Et puis, une perspective un peu forcée, où on a l'impression que tout plonge vers le lointain. Mais ça, c'est aussi un travail que fait Didier régulièrement sur les vues, les cadrages, comment vont être intégrés les personnages. Et c'est un travail qu'il fait en vidéo avec Magali, et que j'avais envie aussi de faire... dans l'espace, de sentir que ces corps, quand on les pose, il y a quelque chose d'un peu étrange qui leur arrive.
Il est pas en blanc, mais il est quand même d'une certaine façon, ce mur. Il y a une peinture en relief.
C'est du crépi, finalement. Ouais, parce que j'avais envie que ce soit quand même un petit peu matière, que ça soit pas juste blanc. Et ça se révèle plus ou moins à la lumière. Moi, quand j'imaginais Beyrouth, en ayant regardé un peu des photos, etc., c'est vrai qu'il y a des parties qui ont les stigmates de la guerre, et en même temps, cette histoire, ça se passe dans une auberge, donc pour moi, c'était pas non plus un champ de bataille, quoi. Donc j'avais envie que ça soit pas complètement usé, complètement décrépit, j'avais envie que ça soit un intérieur.
Oui, c'est une écriture, du moins dans une pièce, par exemple, Le désert avance, c'est une écriture à point de suspension, en fait, c'est une écriture en suspension, et du coup... J'imagine que pour un metteur en scène, des textes comme ça où il y a des espaces qui sont pas vides, au contraire, mais où il y a des espaces de non, comme tu le dis, de non-dit, ça doit être incroyable à mettre en scène, ça doit te donner un champ des possibles incroyable.
Ouais, et le but, c'est pas de fermer le sens. C'est justement ça qui est assez passionnant, c'est d'arriver à, on va dire, à supporter ce texte-là, à le rendre au plateau dans sa grande pureté, sans pour autant affaiblir le propos. C'est-à-dire qu'on a Marc-Antoine, avant d'arriver en France, il avait ce problème, c'est d'être un auteur beaucoup lu, mais très peu joué. Et c'est vrai que ces textes fonctionnent très très bien en lecture, mais dès qu'on essaye de les jouer au plateau de manière un peu quotidienne, il y a quelque chose qui résiste. Et ça, c'est aussi la force de notre collaboration, c'est que moi, j'essaie toujours de décaler ces choses-là, et que je trouve que c'est pas dans le réalisme qu'on trouve la vérité de ces textes. C'est dans une certaine économie, dans un travail qui est travail, je trouve, moi, d'humilité pour les comédiens. C'est-à-dire qu'ils acceptent véritablement que le texte passe en premier. Et moi, j'aime bien ce truc-là, parce que c'est vrai que quand on lit le texte, on fait souvent remarquer à Marc-Antoine que ces pièces, c'est comme si c'était pas très intéressant, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est dit, et justement, c'est des pièces qui s'inscrivent en creux, qui se développent dans ce qui n'est pas dit. Donc le défi, à chaque fois, c'est d'arriver à rendre ces silences et puis à faire en sorte qu'ils soient insignifiants.
Et alors ça repose aussi beaucoup sur les comédiens, d'incarner ces silences. Et du coup, comment tu as choisi tes quatre comédiens pour cette pièce-là ?
Pour Les Paratonnerres, c'est un peu particulier parce que on sortait de l'aventure Fratrie avec quatre comédiens que j'avais choisis, et puis quand on a commencé à parler des paratonnerres, Marc-Antoine voulait écrire une pièce pour moi et pour des acteurs. Moi, je voulais qu'il écrive une pièce pour la montée. Et on a imaginé cette résidence de 3 mois à Beyrouth en se disant que ce serait quand même bien qu'il ait des muses, pas forcément des gens pour l'inspirer, mais en tout cas des compagnons de route. Donc on a regardé un peu autour de nous les gens avec qui on rêvait de travailler ou de retravailler. Donc moi, il y avait une comédienne avec qui j'avais envie de travailler, puis Marc-Antoine m'a dit tiens, je vais te faire rencontrer des gens. Et donc on a sélectionné ces 4 personnes là tout en se disant que si jamais un jour la pièce était produite, on pourrait travailler avec eux, mais on n'était pas encore dans ce souci-là. Donc on a d'abord, la première étape, c'était de rencontrer ces personnes, de leur parler du projet, que ces 4 personnes soient en contact avec l'auteur pendant les 3 mois de la résidence, qu'il y ait un échange, qu'il lui renvoie des textes, qu'eux lui répondent. La pièce s'est faite comme ça, en communication, en correspondance avec eux. Et donc, quand la pièce a été produite, on a décidé de continuer avec eux, ce qui a été quand même une décision qui a eu pas mal de conséquences, parce que quand on fait des auditions ou quand on connaît des comédiens, on sait à quoi s'attendre. Et quand on fait pas d'audition et qu'ensuite on découvre en travaillant une équipe, ça met aussi... C'est un assez grand défi de découvrir en jeu une équipe composée à partir de juste de personnalités qu'on aimait bien. Et ça veut dire aussi 4 personnes qui avaient des techniques très différentes, qu'il fallait arriver à faire en sorte que tout ça se rejoigne au centre.
Et si, quand même, un des éléments principaux de ce décor, c'est un escalier qui, au début, est un escalier un peu étrange parce que là, on l'a pas vu.
Donc il y a un
panneau coulissant qu'on
panneau
entend.
Panneau coulissant, oui.
Et un second.
Alors ces 2 panneaux, ils traversent l'espace, enfin la scène, au milieu.
C'est ça, ils coupent l'escalier. Mais donc au début, on a un escalier qui donne sur un mur, qui est une chose un peu curieuse. Et au fur et à mesure, on ouvre ces panneaux pour se rendre compte que l'escalier continue et va vers ce qui va être après le toit. Mais dans l'histoire, il y a le toit de la maison, la cave de la maison. Et en fait, cet escalier qui est un peu mystérieux nous permettait de jouer sur plusieurs niveaux. Avec la lumière, parfois on arrive de la cave, parfois on monte vers le toit. C'est comme un peu ces dessins de Escher qui tournent à l'infini. C'est un peu l'idée de couper les choses, avec des éléments a priori quotidiens, de donner un rapport à l'espace un tout petit peu curieux. Mais on est passé par plein d'idées. Il y aurait pu avoir des tapis persans partout, et puis finalement non. Et puis j'ai regardé aussi un peu d'habitat troglodyte. Moi, ça me parlait de ça aussi, cette idée de se protéger, une sorte d'avoir creusé quelque part pour se faire un abri. J'aimais bien l'idée de l'abri aussi, parce que oui, on entend parler de la guerre et puis des orages, et donc j'avais envie de faire quelque chose où il puisse être protégé, et en même temps il y a des fuites un peu partout.
Encore des caissons noirs.
Encore des caissons noirs, encore un mur blanc au milieu de la scène,
oui.
Derrière les panneaux mobiles.
Ces caissons noirs, c'est un peu dans la même idée que la corniche, c'est juste des éléments qui viennent sortir du sol, qui agissent comme des bancs, un élément de mobilier, des choses sur lesquelles on monte, c'est juste oui, des petits éléments. Après, ils auraient pu se déplacer, puis finalement c'est pas le cas, parce que la mise en scène a fait que ça s'est pas révélé être utile. Et toujours dans l'idée de cadrage, il y a un mur au loin pour tenir dans un espace un peu contraint ces personnages, et pour donner cette idée de maison quand même, d'avoir au moins 3 murs, ça permet de sentir un espace intérieur. Et en même temps, ce mur lointain, il n'a pas d'épaisseur, donc parfois il agit comme juste une espèce de petite feuille de papier. Il prend différentes qualités au fur et à mesure.
Il sert d'écran aussi ?
Évidemment.
Et alors, est-ce que tu veux nous dire un mot, en fait, de ces 4 comédiens ? Parce que tout de suite, je pense à la comédienne à laquelle vous avez confié le rôle de la mère, Anka, qui a une voix tout à fait incroyable. Du coup, qui sont-ils ?
Qui sont-ils ? C'est des acteurs qui ont chacun leur spécificité. C'est vrai que moi, habituellement, je travaille plus avec des gens qui ont justement un rapport au corps, qui ont un rapport à la musicalité de la langue, c'est ce qui me plaît. Là, ça m'a aussi déplacé de travailler avec des acteurs qui sont qui portent une attention soutenue à la psychologie des personnages. Ce qui est une des choses qu'on traite au théâtre, mais qui, pour moi, est vraiment du ressort de l'acteur. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, mais c'est pas non plus... moi, j'ai plutôt l'habitude, maintenant, je peux dire l'habitude, de travailler par l'autre bout. C'est-à-dire de prendre le texte plutôt comme une partition musicale. On commence bien sûr par des improvisations et puis par du travail sur le texte et du travail dramaturgique, mais une fois ça fait, j'aime travailler avec le texte comme si c'était une partition. Ce qui a été plus difficile à faire dans le cas présent, mais on a quand même réussi à trouver des moyens de travailler ensemble. Donc, Marc Berman, lui, c'est un ancien du théâtre du Campagnol. Il fait partie d'une génération d'acteurs qui a beaucoup travaillé au cinéma. Lui, il a travaillé pour Ettore Scola et Jean-Claude Pinchenat pour Le Bal, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une grande aventure théâtrale puis cinématographique. Anne Seyer, elle est vraiment de l'école russe. D'ailleurs, elle travaille énormément en Russie. Elle travaille beaucoup, beaucoup sur justement la psychologie du personnage. Thierry Blanc, qui était un acteur que je connaissais pas du tout, qui lui aussi apporte une grande attention à ce travail psychologique. Après, dans l'équipe, il y avait Camille Trofem, donc qui est pas sur le plateau parce qu'elle a dû être remplacée à la dernière minute, et qui, elle, était peut-être celle avec qui j'avais le plus d'affinité, on va dire, évidente. Puisque elle est musicienne, habituée à travailler sur le corps, mais il fallait pas, on va dire, qu'on puisse sentir des différences de traitement. Il n'était pas question que le rapport au corps, au dessin des corps dans l'espace, soit uniquement confié à l'un des interprètes. Donc on a essayé de trouver comment on pouvait trouver un équilibre.
Et alors ça, là, il y a un établi. C'est quoi cet établi?
Cet établi, c'est l'établi de Abel, qui est le père de famille, et qui construit pendant toute la pièce des paratonnerres. Donc c'est juste un cube assez simple, mais sur lequel il a tous ses objets pour fabriquer ces paratonnerres, qui sont un des éléments principaux du spectacle.
Sur cette pièce-là, tu ne t'es pas occupé des costumes?
Non.
Donc du coup, comment tu as travaillé avec la personne qui fait les costumes pour qu'il y ait une unité, enfin une...
On a beaucoup discuté. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est un espace qui est quand même un peu abstrait, avec juste un élément, donc qui est cet établi dont on vient de parler, qui a des scies, une radio, un carnet, qui sont des objets, des accessoires concrets. Et c'est vrai que quand Fanny Brust a commencé à mettre les personnages en costume, on s'est rendu compte que les choses trop neuves et trop quotidiennes ne fonctionnaient pas. Donc elle a commencé à faire un alliage de choses un peu plus vintage. Et quand elle a commencé à... Enfin, elle a été à un moment peut-être trop pour elle dans le vintage, et ça collait pas non plus, donc on a toutes les deux un peu équilibré dans le choix des objets, dans des patines finalement qui étaient pas là au début, enfin de la peinture du décor aussi, parce que tout était trop brut, donc on a ajusté le tir ensemble. Mais voilà, c'est vrai qu'en fait, comme il y a peu de choses, les corps des comédiens en costume, tout de suite, c'était des éléments qui étaient très prégnants et qui ont posé pas mal de questions.
Du coup, vous étiez en résidence au Liban. Est-ce que vous allez l'emmener au Liban? Est-ce que vous allez retourner au Liban avec lui?
Ça fait partie des plans. Alors, on sait que si on va au Liban, on devra sans doute partir sans le décor. On devra... en tout cas, ça fait partie de notre volonté. Puis, ce serait, selon le... Je veux dire, Marc-Antoine Cyr dit souvent ça. Il dit souvent, j'ai envie d'aller aussi rendre la base qui m'a été donnée. Et puis je trouve que ce serait une belle aventure que d'aller faire ce spectacle, donner ce spectacle-là au Liban, et qu'il puisse éventuellement